9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Emmanuel Macron réélu de président de la République. Il lui faut maintenant choisir un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première ministre pour gagner les législatives et constituer une majorité. Et il peut choisir absolument n'importe qui, comme on va le voir avec Arnaud Tessier. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Je recevrai ensuite Léo Péria-Peignet, spécialiste des questions d'armement à l'IFRI. Joe Biden a en effet annoncé une nouvelle aide de 33 milliards de dollars à l'Ukraine. L'Europe aussi va envoyer quantité d'armement et de matériel. Qu'est-ce qui a changé? Il va nous le dire. Et l'on terminera l'émission avec Nicolas Offenstadt qui publie le premier essai sur ce nouveau phénomène qu'on appelle l'urbex. L'urbex, c'est l'exploitation urbaine, la visite illégale de sites abandonnés et c'est un phénomène mondial.
Europe 1.
Arnaud Tessier, vous êtes historien, on vous doit notamment une histoire politique de la Ve République et plus récemment l'énigme Pompidou-De Gaulle, les deux sont parus chez Perrin. On ne va pas s'amuser à spéculer sur le nom du prochain ou de la prochaine Première Ministre qu'Emmanuel Macron s'apprête à nommer, mais on peut rappeler pourquoi et comment sont choisis les locataires de Matignon. Que cherche un président exactement en nommant un Premier Ministre? Il cherche une majorité?
Ça dépend beaucoup des circonstances. Lorsque De Gaulle a gouverné, le Premier ministre, pour lui, était le lien avec l'Assemblée, et le lien avec le milieu parlementaire dans le cadre chronologique d'une législature qui est 5 ans. Le président de la République, lui-même, était élu pour 7 ans. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure différent, puisque le quinquennat a aligné la présidence de la République sur la durée d'une législature, et les deux élections sont concomitantes. Donc là, effectivement, on est dans un cas de figure tout à fait différent de ce qui existait avant le quinquennat, d'une certaine manière.
Là, Emmanuel Macron doit faire son choix avant les élections législatives.
Oui, mais il peut en changer en fonction du résultat des élections. Le président Exactement. De la République est tout à fait maître du jeu de ce point de vue-là.
Et on va le voir, effectivement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il peut nommer absolument n'importe qui. Un ou une inconnue, s'il le désire. Georges Pompidou était un inconnu. Il était directeur de la Banque Rothschild et membre du Conseil constitutionnel quand le général de Gaulle l'a nommé Premier ministre en 1962. Il sera d'ailleurs renversé au bout de quelques mois par une motion de censure. Le général de Gaulle dissoudra l'Assemblée et le renommera Premier ministre.
Oui, c'est très différent des régimes précédents parce qu'effectivement, pour renverser le gouvernement, il faut voter une motion de censure, ce qui est très difficile.
Ça a été la seule fois où ça a marché.
Voilà, mais en même temps, on peut considérer que le président de la République ne peut pas décemment choisir un Premier ministre qui n'est pas une majorité à l'Assemblée.
Voilà, il faut qu'il ait une majorité à l'Assemblée
pour pouvoir se gouverner quand même. Il peut essayer de gouverner quand même, mais avec le risque d'avoir une motion de censure.
Mais on peut nommer quelqu'un qui ne pèse rien politiquement. Raymond Barre, par exemple, était un obscur ministre du commerce extérieur quand Valéry Giscard d'Estaing l'a nommé. Édouard Philippe n'avait jamais été ministre quand Emmanuel Macron l'a nommé. Jean Castex avait été secrétaire général adjoint de l'Élysée, mais enfin, il était devenu maire de Prades quand il est devenu Premier ministre.
Oui, mais l'origine du Premier ministre ne dicte pas la suite des choses. Par exemple, Georges Pompidou et Raymond Barre ont été des Premiers ministres d'une réelle envergure. La personnalité du Premier ministre joue, le rapport de force est très différent. Mais depuis que le président de la République, à cause du quinquennat et des cohabitations, et peut-être du tempérament, par exemple, de Nicolas Sarkozy ou d'Emmanuel Macron, le rôle du Premier ministre est beaucoup plus effacé qu'il ne l'était dans la Ve République traditionnelle, et même à l'époque du général de Gaulle. Le général de Gaulle, le Premier ministre, avait une forte consistance politique, et le général de Gaulle respectait l'espace du Premier ministre.
Je reste sur le fait qu'il peut nommer n'importe qui. Il pourrait très bien nommer, s'il le voulait, Barack Obama ou Angela Merkel.
Ah oui.
Il suffirait qu'ils prennent l'un et l'autre la nationalité française en plus de la leur, ce qui peut se faire très très vite par décret. Et puis ensuite, ce serait au Conseil d'État d'approuver. Enfin, ce serait une formalité. Il n'a aucune limite, le président actuellement.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a nommé deux premiers ministres qui étaient des hauts fonctionnaires et qui étaient du même univers que lui, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires issus de l'ENA. Même si l'ENA a été supprimée, il faut reconnaître que c'est assez amusant de voir que le président de la République et ses deux premiers ministres successifs étaient des énarques. Ce qui prouve que finalement, la recherche de l'originalité n'est pas peut-être la règle absolue.
C'est seulement en cas de cohabitation qu'il n'a pas le choix. À ce moment-là, le choix du Premier ministre est dicté par la nouvelle majorité.
Il peut essayer de forcer le jeu, puisque en fait, c'est la motion de censure qui est la menace pour lui. Il peut essayer de forcer le jeu si la majorité est incertaine. Il peut essayer de forcer le jeu, de nommer un Premier ministre qui trouvera une majorité. Tout dépend de ce que va être la configuration de l'Assemblée qui va sortir des élections. S'il a une majorité large, aucun problème. S'il a une majorité étroite ou une majorité composite, ce qui est très possible, à la suite d'alliances, d'ententes, etc., il peut, le jeu est plus serré, mais en même temps reste assez ouvert.
Ce que je veux dire, c'est que François Mitterrand a nommé Édouard Balladur en 1993 parce que Jacques Chirac, le chef de la majorité, qui venait de remporter les élections législatives, l'avait décidé ainsi. C'est Jacques Chirac qui a décidé que ce serait Édouard Balladur. Ce n'est pas une fantaisie de Mitterrand qui s'est dit « Tiens, je ne vais pas nommer Chirac, je vais nommer Balladur ».
Chirac ne voulait pas y aller. Mais, voilà. Mais François Mitterrand, c'était un homme de la 4e République. Il avait l'habitude de toute cette soupe, si j'ose dire. Et donc lui, il avait tout avantage à nommer celui que la majorité au pouvoir, qui était pour lui opposé à ses propres convictions, voulait nommer. Puisque François Mitterrand a compris très vite que la cohabitation, c'était la meilleure chance pour lui de se faire réélire. Donc il avait tout intérêt, finalement, à jouer le jeu en apparence de la majorité opposée, sachant qu'il tirerait par ailleurs les ficelles. On n'est pas dans la même configuration. Emmanuel Macron n'est pas du tout un président de la République sur le même profil que Mitterrand, qui était vraiment, qui avait usé, de connaissait toutes les arcanes de la vieille 4e.
Mais en même temps, Jean-Luc Mélenchon, s'y réussit, par exemple, à avoir la majorité aux législatives comme il l'espère, Emmanuel Macron devra effectivement le nommer à Matignon. Quand il dit « Élisez-moi Premier ministre », c'est un raccourci, évidemment. Mais ça n'est pas en contradiction avec l'esprit des institutions.
Non, non, bien sûr. Il est certain que si Jean-Luc Mélenchon avait une majorité très nette à l'Assemblée, oui, il est vraisemblable que Emmanuel Macron n'aurait pas d'autre choix raisonnable que de
pareil,
le choisir.
Pareil si c'était Marine Le Pen, bien
oui,
entendu.
Oui, tout à fait. Mais il faut bien voir que de toute manière, on est dans un jeu institutionnel très serré où le président de la République a ses cartes à jouer dans ce cas-là.
Par exemple ?
Eh bien, sur le plan international. On se souvient de la cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac, où les pays étrangers étaient un peu déboussolés par le fait qu'il y avait deux têtes de l'exécutif. Mais qui tirait les barons du feu ? C'était Mitterrand. C'est comme le président de la République qui, dans le cadre protocolaire, gagne haut la main parce qu'il est le chef de l'État, parce qu'il est élu directement par les Français, par le suffrage universel direct. Ah ça, le suffrage universel direct, quelle invention merveilleuse. Ça donne au président de la République une position qui, même dans un rapport de force politique difficile, voilà, enfin, il faut savoir en tirer parti. François Mitterrand est passé maître. Jacques Chirac était moins bon dans le rôle, mais il a quand même eu une opportunité extraordinaire avec l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour.
Ça, c'était en 2002. Mais avant voilà. Cela, il avait essuyé 50 cohabitations.
Oui, qui avait été très dur pour lui.
Avec Lionel Jospin.
Et il n'avait pas montré la même maestria que François Mitterrand. Ne surfait pas.
On fait une pause. On se retrouve juste après. Arnaud Tessier, on va aborder d'autres questions qui se posent aujourd'hui où Emmanuel Macron doit choisir un Premier ministre.
Frédéric Taddeï.
Arnaud Tessier est historien, on lui doit notamment une histoire politique de la Ve République et plus récemment l'énigme Pompidou-De Gaulle. Les deux sont parus chez Perrin. Emmanuel Macron doit choisir un Premier ministre. Emmanuel Macron doit choisir un Premier ministre. Dans le cas d'un second mandat, est-ce que le choix du Premier ministre est différent ? François Mitterrand avait nommé Michel Rocard, Jacques Chirac avait choisi Jean-Pierre Raffarin.
Ah oui, on a dit d'ailleurs, s'agissant de François Mitterrand et de Michel Rocard, que la vraie cohabitation pour François Mitterrand, ça avait été Michel Rocard, bien que ce soit la même majorité. Les deux hommes se détestaient tellement que pour François Mitterrand, ça a sans doute été de loin la cohabitation la plus dure. Non, Jacques Chirac avait choisi Jean-Pierre Raffarin, parce que Jean-Pierre Raffarin représentait l'aile centriste, centre-droit de sa majorité, et que c'était un homme assez maniable pour lui, qui en même temps d'ailleurs a exercé la fonction de Premier ministre pleinement, on ne peut pas dire le contraire. Donc c'était le glissement vers le centre que Jacques Chirac avait initié avec la création de l'UMP.
Vous avez beaucoup insisté, Arnaud Tessier, depuis tout à l'heure, sur le fait qu'aujourd'hui, le mandat du président de la République a été réduit à 5 ans. D'ailleurs, c'est Lionel Jospin qui le voulait pendant la cohabitation. Jacques Chirac était contre. Il a bien été obligé de le faire quand même. Sa durée est la même aujourd'hui que celle de la majorité qui va sortir des urnes de la législature. Ça change beaucoup de choses.
Oui, parce que l'échelle du temps n'est pas la même. Le président de la République, à l'origine, Michel Debré aurait voulu que le président de la République soit élu même, je crois, pour 12 ans. L'idée, c'était que le président de la République ne s'inscrit pas dans la même temporalité que le gouvernement. C'est l'homme des grands arbitrages, de la longue distance. Le Premier ministre et l'Assemblée, c'est les 5 ans. C'est une politique plus articulée avec la démocratie d'opinion. Aujourd'hui, le quinquennat a eu des effets, quand même, de ce point de vue-là, il faut bien le dire, un peu désastreux, puisqu'il a écrasé le temps politique. Et maintenant, le président de la République est en quelque sorte pris au piège de la politique parlementaire, de la politique des partis, ce que de Gaulle voulait éviter à tout prix lorsqu'il a créé la Ve République. Donc, c'est plus compliqué qu'autrefois.
Au fond, le président de la République ne domine plus comme autrefois. Il est devenu lui-même une sorte de super Premier ministre, non ?
Oui, et alors du coup, la fonction de Premier ministre a tendance à s'effacer. Mais c'est aussi, c'est pas seulement le fait du quinquennat et l'évolution des institutions, c'est aussi le choix aussi... On voit bien que le style de Nicolas Sarkozy, le style d'Emmanuel Macron, c'est comme une prééminence très forte du président de la République. François Hollande était sur un axe différent, lui qui était plus dans la tradition des institutions malgré le quinquennat. Alors que sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, les premiers ministres avaient, et même sous Mitterrand, avaient une consistance politique beaucoup plus grande. Donc je pense qu'il y a le rôle du quinquennat, l'impact du quinquennat, mais il y a aussi le fait que ce sont des présidents, Nicolas Sarkozy comme Emmanuel Macron, qui sont attachés très fortement à leur prééminence et qui interviennent dans la politique quotidienne, beaucoup plus que dans la tradition de la Ve République.
Alors justement, quel est le rôle du Premier ministre dans ces cas-là, à vos yeux, Arnaud Tessier ?
Bien, écoutez, le Premier ministre, c'est difficile à définir. Le Premier ministre a un rôle plus effacé sur le plan politique. Il est censé être le chef de la majorité, mais le président de la République joue aussi ce rôle. Par moment, je dirais que c'est un peu en fonction des circonstances. On l'a bien vu au moment de la crise du Covid, où finalement l'intervention du président de la République se faisait à certains moments, sur un certain ton, sur un certain registre. Puis ensuite, c'était le Premier ministre, sur un certain ton, sur un certain registre. Puis c'était le ministre de la Santé, puis c'était le directeur général de la Santé. Il y avait une répartition des rôles en fonction de l'impact médiatique. Donc tout cela, évidemment, participe d'un jeu qui est quand même au total pas très sain, parce que il y a quand même globalement un effacement de la fonction de Premier ministre. Et ça, c'est quand même pas une bonne évolution des institutions.
On a l'impression, effectivement, que demain, on pourrait supprimer le Premier ministre et que ça ne changerait rien.
Ah oui et non, parce que quand même, nous ne sommes pas dans le régime présidentiel américain, en tout cas pas encore. Et le Premier ministre a encore des prérogatives, notamment il dirige l'action du gouvernement vis-à-vis de l'administration. Il a quand même encore du poids. Et il y a certains dossiers, on le sait, sur lesquels Édouard Philippe a quand même fait prévaloir à un moment donné... Je ne dirais pas qu'il s'est révolté, mais il a fait prévaloir un petit peu son point de vue. Il y a des choses qui se sont faites ou ne se sont pas faites quand il était Premier ministre. Mais enfin, tout de même, le Premier ministre n'a pas le rôle qu'il avait dans l'esprit des institutions de la Ve République. Et effectivement, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que le remous médiatique autour du choix du Premier ministre ait un tel impact sur l'opinion publique. J'en doute un petit peu, à dire vrai, sans vouloir blesser celui ou celle qui sera choisi et qui sera certainement une personnalité éminente.
Mais qui va donner le ton de la campagne législative. C'est en fonction de cette personnalité qu'on peut voir se dessiner la majorité sur laquelle peut compter Emmanuel Macron pour gouverner pendant les prochaines années.
Si c'est une personnalité politique de premier plan, oui. Sinon, ça sera encore le président de la République, Emmanuel Macron, qui dominera le jeu. Ça,
comme,
c'est
comme le général de Gaulle, au fond, quand il a nommé Georges Pompidou, on le lui avait reproché parce qu'il nommait un de ses proches, qui avait été son directeur de cabinet, mais qui n'était pas un politique.
Oui, mais c'est surtout que le général de Gaulle était le général de Gaulle. Et donc, pour arriver à avoir une existence politique à côté du général de Gaulle, c'était un peu difficile. Mais Pompidou l'a acquise, cette personnalité politique, par les joutes dont il s'est montré capable à l'Assemblée, notamment face à François Mitterrand. Et puis parce que De Gaulle, encore une fois, l'a laissé exister. Il se connaissait depuis longtemps. De Gaulle respectait Pompidou et donc il a joué le jeu, De Gaulle. Hein. Il était écrasant, évidemment, De Gaulle. Mais le Premier ministre, Pompidou, est resté Premier ministre 6 ans. Son avis pesait. Enfin, De Gaulle a reculé sur certains sujets parce que Pompidou tenait fermement ses positions. Donc, voilà, je pense que là, le rapport de force n'est pas le même par la force des choses.
Est-ce que ça n'était pas le cas également sous Georges Pompidou ou sous Valéry Giscard d'Estaing, quand Raymond Barre ne voulait pas quelque chose je pense qu'on ne le faisait pas.
Ah ben, Georges Pompidou a supporté pendant 3 ans Jacques Chaban-Delmas, alors qu'il était manifeste dès le début qu'il ne pouvait pas le supporter. Et que, c'était très drôle. Mais en même temps, il l'a quand même supporté 3 ans. Et puis un jour, quand même, Pompidou a montré qu'il était le chef. Le jour où Chaban-Delmas a voulu s'appuyer sur l'Assemblée contre l'Élysée et il a eu la confiance de l'Assemblée et Pompidou a renvoyé Chaban-Delmas pour rappeler que le vrai patron, c'était le président. Mais ce n'était pas une histoire d'affaires personnelles. C'est parce que Pompidou, héritier de De Gaulle, voulait rappeler que le patron, c'était quand même le président de la République.
Aujourd'hui encore, le patron, c'est le président de la République. Encore plus.
Plus que jamais, mais pour des raisons différentes qui ne tiennent pas à l'esprit initial des institutions.
Ça tient à quoi ?
Ça tient à la présidentialisation des fonctions liées à la fois au quinquennat et à la pratique institutionnelle qui est très nette. Encore une fois, pas seulement le quinquennat, parce que Jacques Chirac était ce qu'il était. Il était président, son deuxième mandat, c'était un quinquennat. Mais Jean-Pierre Raffarin puis Dominique de Villepin ont été des premiers ministres qui pesaient quand même d'une manière très nette. Je pense que François Hollande était un peu sur cette ligne aussi avec ses premiers ministres. Non, je pense vraiment qu'il y a une pratique différente avec Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, qui est très présidentialiste, mais qui est un choix facilité par le quinquennat, mais qui n'est pas la lecture gaullienne. Alors pour le coup, du tout.
Merci Arnaud Tessier.
Merci.
On verra qui va choisir Emmanuel Macron. On se retrouve après une pause. On va parler de la guerre en Ukraine.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Le président des États-Unis a demandé cette semaine au Congrès 33 milliards d'aides supplémentaires en faveur de l'Ukraine, dont 2/3 en assistance militaire, c'est-à-dire en armes, en matériel et en munitions. Nous n'attaquons pas la Russie, a précisé Joe Biden. Nous aidons l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. Léo Periapenier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste des questions d'armement à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On dirait que l'Occident a désormais la conviction que l'Ukraine peut gagner la guerre et qu'il va lui en donner les moyens. Est-ce que c'est ça qui a changé ?
J'arrive pas jusque-là. Je serais peut-être un peu plus modéré au moins dans mon analyse, mais je dirais que là, les besoins de l'Ukraine ont changé par rapport à la première phase de l'offensive. À savoir, il y a un besoin en armement plus lourd et en capacités un peu différentes, surtout peut-être pour restaurer des capacités qui ont été endommagées ou qui ont été perdues au cours de la première phase de la guerre, en tout cas.
Donc c'est uniquement ça, il n'y a pas d'autre différence, c'est pas que tout à coup, on se met à y croire.
D'abord, il faut définir qu'est-ce que ce serait, gagner la guerre. Est-ce que ce serait repousser les Russes du territoire ukrainien ? Est-ce que ce serait reprendre le Donbass, reprendre la Crimée ? Est-ce que ce serait pousser en Russie ? Autant de questions qui restent à définir, je pense. Mais déjà, la première victoire à court terme, maintenant que la première phase de l'offensive russe a été bloquée et que la deuxième a commencé, ce serait de tenir les positions qui sont aujourd'hui tenues dans le Donbass, autour de Kherson et autour de Kharkiv, et autour de Zaporizhia. Je dirais que ce serait de tenir donc ces différentes positions qui sont aujourd'hui sous assaut, un assaut qui est très fort, qui est très concentré, notamment en munitions et en utilisation d'artillerie. Tenir ces positions jusqu'à ce que soit les Russes se fatiguent, entre guillemets, à savoir consomment trop de munitions ou trop de vies humaines pour que ce soit vraiment rentable, ou n'est plus tout simplement le punch militaire pour aller plus loin.
Mais la différence qui était faite au départ en Occident entre armement défensif et armement offensif, ça n'a plus du tout cours, ça.
Oui, alors à mon humble niveau, je dirais que ça n'avait pas beaucoup cours avant, mais que c'était un outil rhétorique bien pratique pour envoyer certains types d'armes. Même aujourd'hui, les armements qui sont envoyés en Ukraine ne sont pas forcément aussi facilement catégorisables entre offensif et défensif. Je vais prendre le simple exemple de l'artillerie automotrice et tractée qui est envoyée massivement avec les 90 tubes envoyés par les Américains. Ce sont des systèmes qu'on peut utiliser certes en offensive, à savoir pour couvrir un assaut d'infanterie, mais c'est aussi des systèmes que là, et c'est surtout à mon sens comme ça qu'ils vont être utilisés, pour faire ce qu'on appelle une contre-batterie. On identifie le départ d'un feu adverse, on identifie sa localisation précise, on donne l'ordre de tir à nos propres batteries pour battre littéralement les armes adverses et essayer de les faire taire ou même de les détruire. Et ensuite, on bouge le plus vite possible pour éviter de se prendre une propre contre-batterie contre soi. Vous voyez, il y a deux usages. C'est comme on voyait en Irak en 2003, il y a du matériel à double usage. Là, il y avait des armes à double usage.
Mais au départ, on avait l'impression qu'on livrait surtout des armes de petit calibre et des missiles portatifs anti-chars et anti-aériens. Aujourd'hui, on parle des canons, des chars de combat, des véhicules blindés, des hélicoptères de transport de troupes, des systèmes de défense anti-aériens pouvant anéantir des avions de chasse, des drones kamikazes. C'est plus tout à fait la même chose.
Bien sûr, mais à nouveau, je pense que le besoin a changé. Il y avait un besoin au début d'envoyer quelque chose de rapide, parce qu'on était sur des événements qui s'enchaînaient très très vite. Il y avait besoin d'envoyer des choses qui ne requéraient pas une formation très avancée. Un javelin, en un après-midi, on peut avoir appris à n'importe qui à s'en servir à peu près.
Qu'est-ce que c'est qu'un javelin ?
Un missile anti-char portatif américain.
Américain.
Les missiles Milan ont été envoyés plus tard. Mais voilà, donc les milliers de missiles anti-char portatifs qui ont été envoyés répondaient à un besoin qui était immédiat et très urgent. qui a été très utile. On a vu les colonnes russes se faire harceler en rase campagne, être prises en embuscade à plusieurs endroits. Voilà, ces armes-là ont eu un usage immédiat et qui a été... Je peux pas dire si l'Ukraine serait tombée sans ça, mais l'apport a été au moins décisif. Maintenant, l'offensive russe a changé de nature, a changé de forme, ce qui fait que ça amène de nouveaux besoins, et surtout pour restaurer, comme je vous disais, des capacités détruites. Les pertes ukrainiennes sont mal connues, parce que les Russes communiquent peu à ce sujet. Mais on ne peut pas douter qu'elles sont importantes. En blindés, en chars, en artillerie, ils ont perdu du matériel. Donc, restaurer ce matériel-là, ça redonnera du punch à l'armée ukrainienne à moyen terme.
Mais il faut former les Ukrainiens au maniement de tout cet armement. Comment fait-on ? Ça a lieu où ?
Alors, de ce qu'on peut en voir jusqu'à aujourd'hui, on se gardera bien de dire qu'on peut tout voir, mais il y a deux écoles. Il y a, par exemple, la France envoie des Césars. Il semble que les équipiers ukrainiens...
C'est des canons.
Voilà, ce sont des canons de 155 mm montés sur camion, grosse puissance de feu, grande portée. Les effectifs ukrainiens seront formés en France, apparemment.
Mais donc, il faut qu'ils viennent ici,
voilà.
Ils se forment et ils repartent sur le front.
C'est l'idée. Maintenant, on voit aussi, j'ai vu passer plusieurs news indiquant qu'une partie des tubes envoyés par les Américains étaient déjà en Pologne et étaient destinés à partir en Ukraine. A priori, là, ils seront sûrement accompagnés par un noyau dur de formateurs ukrainiens qui ont été formés par les États-Unis ces dernières années et qui, là, devront grossir les rangs assez rapidement, mais en Ukraine, a priori.
Alors, il faut dire que l'armée ukrainienne est discrètement entraînée par les forces de l'OTAN depuis assez longtemps maintenant. Hein. C'est une des raisons pourquoi elle a réussi d'ailleurs probablement à arrêter l'avance des Russes. Ça date de quand ? De 2014, quand a commencé la guerre entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne. C'est de là que l'OTAN a commencé à entraîner les Ukrainiens ?
Je pense effectivement que les défauts profonds et très graves de l'armée ukrainienne qui ont été révélés pendant les premières sécessions de Donetsk et Louhansk
en 2014,
ont incité l'OTAN, ou on va plutôt parler des Américains pour le coup, peut-être une aide des Polonais, mais voilà, ont incité ces différents pays-là à faire un gros effort de formation et de restructuration profonde des forces ukrainiennes qui aujourd'hui a porté ses fruits. On a vu, alors qu'en 2014, on avait vu une armée mal organisée, corrompue, faiblement motivée, surtout ça, faiblement motivée avec beaucoup de désertions. Qui s'était débordé assez rapidement dans une situation d'impréparation quasi totale. Là, on a quand même vu une armée ukrainienne prête, avec de nouveaux matériels, dont je pense qu'il faudrait peut-être toucher un mot aussi, de nouveaux matériels, une vraie motivation, une vraie réorganisation. Il reste des défauts, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est sans commune mesure ce qui a été fait. À la fois l'entraînement des Américains et des forces de l'OTAN, oui, a dû jouer. Une motivation politique plus importante aussi, à mon sens, par rapport à 2014. Ça, c'est peut-être un jeu plus en interne. Mais ces différents facteurs ont contribué à faire d'aujourd'hui une armée ukrainienne viable pour les missions qu'on lui donne. Si je peux me permettre juste un petit mot, on a aussi vu le déploiement de nouveaux matériels qui ont été développés depuis, notamment des petits blindés d'infanterie avec une tourelle et un canon de 30 mm qu'on a vu très efficaces, notamment à Mariupol, entre les mains du groupement Azov. Et d'autres fronts en Ukraine.
Ne partez pas, Léo Periapeigné. On fait une pause. On continue juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Et Léo Periapeigné, qui est le spécialiste des questions d'armement à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On était en train de parler de la formation que l'armée ukrainienne a eue depuis 2014 par les États-Unis, notamment comment cette armée a été préparée et comment elle a réussi à arrêter l'armée russe. Vous parliez de matériel. Il y a eu des efforts qui ont été faits également pour lui donner, déjà à cette époque-là, un matériel convenable.
Oui, donc il y a eu des dons, ou du moins des ventes, de la part de plusieurs pays de l'OTAN. Je pense à la France, je pense aux États-Unis évidemment. Il me semble que d'autres pays, notamment les Anglais, qui ont été très impliqués sur cette question-là, des dons ont été faits, des ventes ont été faites, des formations ont été faites, ça c'est indubitable. Et on en voit le résultat aujourd'hui. Je pense aussi que l'armée de 2014 aurait eu plus de mal à absorber certains équipements qui leur ont été envoyés, par exemple, durant les deux derniers mois.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur envoie des équipements tellement pointus qu'il faut de la formation et puis il faut avoir une certaine expérience.
Sans être tellement pointu, je pense que l'armée de 2014, l'armée ukrainienne de 2014, était une armée qui était vraiment une armée post-soviétique, qui était formée sur du matériel du pacte de Varsovie, avec des références très particulières, des automatismes. Alors que là, l'effort de formation qui a été fait depuis 2014 leur a permis de se familiariser avec certains éléments du matériel aux normes OTAN, qui permet une intégration plus rapide et plus facile aujourd'hui.
Aujourd'hui, justement, où il y a tellement de pays qui veulent leur envoyer de l'armement lourd.
Voilà, pour vous donner un exemple très concret, le standard soviétique en artillerie lourde, c'était 152 mm, donc c'était un canon un peu particulier. Ce qui est envoyé en majorité aujourd'hui par les Américains et par les Français et par d'autres, c'est du 155 mm, qui est la norme OTAN en matière d'artillerie lourde.
Mais tout ce matériel qu'on envoie ou qu'on va envoyer dans les mois qui viennent, comment on fait pour la maintenance ? Parce qu'il y a de la maintenance après, ça s'abîme ce matériel, et puis il faut l'entretenir.
Alors ça va être une des questions clés, après je pense que d'autres systèmes seraient beaucoup plus coûteux en maintenance, notamment des avions. Mais voilà, très clairement, ce qui est envoyé va nécessiter des pièces détachées, des mécaniciens spécialisés qui sont, à mon sens, en train d'être formés. Après, un élément important qu'il faut garder en tête, à mon sens, c'est que l'Ukraine n'est pas un pays qui est industriellement désarmé. C'est un pays qui a une culture de l'industrie lourde, de l'industrie militaire, qui reste très importante. Une partie des chars soviétiques et des blindés soviétiques étaient construits là. Cet héritage, il existe encore. Il se voit aujourd'hui dans les productions 100% ukrainiennes qui existent.
Mais c'est tout de même un défi logistique.
Bien sûr, il va falloir aussi à l'industrie ukrainienne un certain temps pour s'adapter. On a vu notamment plusieurs pays limitrophes de l'Ukraine qui ont offert leur aide, ou du moins les industries de ces pays-là, pour réparer les véhicules endommagés, mais aussi pour mettre à niveau les véhicules qui ont été sortis de leur cocon pour être envoyés en Ukraine.
Et la question des munitions, parce que si cette guerre dure, il va falloir en acheminer régulièrement ?
C'est déjà un gros souci, je pense qu'on l'a vu ces derniers jours. Donc les missiles anti-chars américains qui ont été envoyés en très grande quantité, en plusieurs milliers d'exemplaires, alors que la production annuelle de Lockheed Martin, qui est le producteur, est limitée à 2 milliers par an, qui ont dit qu'ils pourraient l'augmenter, mais c'était déjà un souci. Maintenant, un autre souci qui se fait jour, outre les quotas de production, les Allemands s'acheminent vers l'envoi de blindés anti-aériens en Ukraine, qui sont des blindés avec deux grosses mitrailleuses de gros calibre qui servent à détruire des avions ou des véhicules légers. Le problème, c'est que ces véhicules ont été retirés des rangs de l'armée allemande, mais que ces munitions sont produites en Suisse. La Suisse qui, jusqu'à aujourd'hui, il me semble, refuse d'envoyer des munitions par souci de neutralité et de respect de sa position traditionnelle.
Justement, la Suisse, elle, veut rester neutre. Nous, ça n'est plus notre cas.
Oui, il y a un engagement. Maintenant, il y a un engagement des Occidentaux qui est très clair et qui, je pense, est assumé. Personne ne dira qu'il est en co-belligérance. Personne n'a l'intention vraiment d'entrer dans le conflit, mais...
Personne n'a intérêt, vous voulez dire, à ce que les nations de l'OTAN soient déclarées co-belligérantes.
Voilà, c'est parce que là, on prendrait encore un pas de plus vers un conflit de grande ampleur et pas limité seulement au cas Ukraine-Russie, que je pense personne ne souhaite. Ça enclencherait une escalade que je pense les gens ont peur de ne pas maîtriser.
Mais le risque d'escalade, il est quand même accentué, là, avec les livraisons d'armes. Comment aider à ce point l'Ukraine sans entrer dans un conflit frontal avec la Russie ou un conflit frontal, c'est quand nos soldats et les leurs commencent à s'entretuer, hein.
C'est encore dans quelques pas, j'ose espérer qu'il y en a encore d'ici là. Mais oui, c'est un risque et je pense que toutes les chancelleries l'ont en tête. Maintenant, ce qui est envoyé, il faut voir que l'effet réel sera dans 2 semaines, au vu de la complexité des armements et du temps de formation, là, on atteindra la pleine puissance à ce moment-là. D'ici là, les Ukrainiens ne sont pas seuls, ils ont le matériel qui leur a déjà été envoyé, mais là, le but, c'est vraiment de tenir l'offensive en cours. Et si un autre pas doit être franchi dans l'engagement occidental, il ne le sera pas tout de suite, il me semble.
Mais des spécialistes de l'armement comme vous, Léo Périapénier, qu'est-ce que vous avez appris depuis le début de cette guerre ?
Bien des choses, et pas forcément des plus réjouissantes pour nous. Nous, entendu, armée occidentale, on a vu que certains systèmes étaient consommés effectivement très vite. Bon, on s'en doutait, hein, mais quand on voit que là, les pertes, ne serait-ce que les pertes russes en chars, sont à peu près l'équivalent du parc français et du parc anglais réunis, alors que les militaires parlent de plus en plus de retour à la haute intensité, c'est des enseignements qu'il faudra intégrer. On a vu aussi.
Vous voulez dire qu'on n'est pas assez équipés, nous, aujourd'hui ?
Je ne sais pas si on n'est pas assez équipé ou si on n'est pas équipé avec les bons matériels. Je ne sais pas. C'est des questions qui sont très complexes, qui vont être réfléchies sur le temps long, mais qui devront être réfléchies. Notamment, outre les blindés, je pense que les pertes en hélicoptères et même en avions de combat sont très lourdes. Et même si on peut toujours pointer des défauts de doctrine et d'utilisation, il y a cette question-là qui se présente. Les pertes en hélicoptères sont très importantes et la France, l'armée française, au moins l'armée de terre qui utilise des hélicoptères de combat, doit se poser la question de que valent nos hélicoptères qui coûtent très cher et qui sont de la dernière modernité face à des armes qui ont été conçues dans les années 80.
Les hélicoptères dont vous parlez qui tombent, c'est les hélicoptères russes.
Oui.
Et qui sont abattus par des armes.
Voilà, on voit des hélicoptères russes, donc des Kamov 52, qui sont des engins très modernes, avec des très grosses capacités d'emport, une puissance de feu très conséquente, qui sont abattus par ce qu'on appelle donc des Stinger, des missiles anti-air portables, qui peuvent être opérés par une seule personne, qu'on utilisait déjà en Afghanistan, que l'Amérique fournissait déjà à l'Afghanistan pour abattre des hélicoptères soviétiques. C'était il y a bientôt 40 ans.
Et pourtant, ça fonctionne encore.
Et ça fonctionne, vu les taux de perte et même les multiples images qui existent, qui fonctionnent encore très très bien.
Un dernier mot très court, et les armes nucléaires, dans tout ça, personne n'en parle, mais tout le monde ne pense qu'à ça.
Oui, c'est très clairement, ça va être l'ultima ratio, c'est l'arme ultime. Je ne sais pas si les Russes n'en sont qu'à une politique de communication politique, je veux dire, en disant nos armes nucléaires sont prêtes, ce sont des mesures qui sont envisageables. Ce serait, à nouveau, on en parlait tout à l'heure, un pas de plus dans une direction de plus en plus incontrôlable.
Merci Léo Periapeigné. On se retrouve juste après une pause. On va parler d'Urbex. Vous ne savez pas ce que c'est que l'Urbex? Eh bien, mon invité va vous l'apprendre.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
L'Urbex est devenu un véritable phénomène. L'Urbex pour Urban Exploration, l'exploration urbaine, la visite illégale de sites abandonnés. Nicolas Offenstadt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous enseignez à la Sorbonne, où vous avez organisé en 2018 la première conférence académique sur l'Urbex, dont vous êtes l'un des rares spécialistes, et vous publiez chez Albin Michel un livre intitulé « Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée ». Alors on sait tous un jour ou l'autre glisser sous une barrière pour pénétrer dans un vieux blocos ou une usine en ruine, mais de quand date l'Urbex en tant que mouvement ?
Vous avez raison, c'est quelque chose qui a toujours existé, c'est-à-dire que depuis même l'Antiquité, des gens se promènent dans les ruines. Depuis qu'il y a eu la désindustrialisation, que des usines ont été abandonnées, il y a encore plus de gens qui se promènent dans des lieux abandonnés. L'urbex, ça demande quand même, à mon avis, deux choses un peu spéciales. C'est d'abord que ça doit être une visite qui est un petit peu approfondie. Donc il y a quand même une dimension, si vous voulez, d'engagement dans la pratique. Et l'autre élément, et ça répond à votre question sur le mouvement, ce qui caractérise l'urbex par rapport à une simple visite de ruine ou si vous jetez un œil après au-dessus d'une barrière, c'est que généralement, il y a un partage, il y a un échange sur Internet. Donc, si vous voulez, c'est lié au développement de Facebook, de YouTube, de Flickr et puis ensuite d'Instagram. Donc, il y a quand même cette dimension, si vous voulez, de prendre des photos, d'échanger. L'idée qu'on fait quelque chose qui intéresse et qui est partagé par d'autres. C'est ça l'urbex aussi, c'est pas seulement ce que vous faites vous personnellement.
Il faut forcément que ce soit illégal. Si le gardien ou le propriétaire d'un site abandonné vous le fait visiter, ça n'est plus de l'exploration, c'est du tourisme ?
C'est une bonne question. Il y a des débats parmi les gens qui pratiquent l'urbex. Moi, j'avoue que l'urbex légal, je trouve que ça perd un peu du sel de la pratique, dont toute une partie consiste justement à pouvoir rentrer dans des lieux qui ne vous sont pas permis. Donc parfois c'est assez simple, parfois c'est beaucoup plus compliqué. Hier j'étais par exemple dans la ville de Lapsi et en Saxe et je suis rentré dans une ancienne fabrique de verre et au bout de deux minutes j'ai vu qu'elle était occupée par des gens qui étaient en train d'en faire un lieu pour une rave party. Très gentiment ils m'ont dit promenez-vous, faites tout ce que vous voulez. J'avais plus vraiment l'impression de faire de l'urbex parce que non pas qu'ils me contrôlaient, ils étaient très sympathiques, mais si vous voulez il n'y avait pas cette dimension d'interdit, de découverte. Je savais que le site était sécurisé, donc vous voyez c'est autre chose quand même.
Oui, il faut qu'il y ait un côté inaccessible, il faut que ce soit une aventure, il faut qu'on puisse se perdre au fond.
Oui, c'est tout à fait, et c'est ce que je trouve assez moi fascinant personnellement, c'est que vous vous perdez dans des lieux si vous voulez qui étaient autrefois très organisés. Ça a quand même une dimension extraordinaire de se perdre dans une usine où vous ne pouviez pas évidemment aller partout, même quand vous étiez un ouvrier, un employé, vous aviez une place assignée, on ne pouvait pas forcément passer d'une section à une autre. Donc il y a effectivement l'idée que vous pouvez aller partout. Alors ça peut être même dans une caserne où les choses étaient encore plus réglementées. Bref, vous êtes le maître des lieux et du coup évidemment on peut se perdre. D'ailleurs moi ça m'est arrivé de me perdre dans des lieux. Et du coup, il est plus raisonnable de voir un petit peu le chemin qu'on a emprunté pour être sûr de trouver la sortie quand ce sont d'immenses lieux abandonnés, ce qui existe. Hein.
Est-ce qu'il y a eu des coups d'éclat, des héros ou des héroïnes vénérés pour leurs exploits ?
Il y a plusieurs types d'exploits, si vous voulez, ce qui permet de parler de l'urbex dans ses différentes facettes. Il y a un exploit acrobatique, et c'est un peu vers là où tend votre question. c'est ceux qui arrivent à monter sur des tours extraordinaires à Shanghai, qui montent sur des grues, qui montent sur des ponts de chemin de fer ou voilà, qui vont dans ce type de... Là, c'est vraiment des acrobates et disons que l'urbex est presque secondaire, l'exploration. Il y a la dimension d'exploit, comme vous dites, il y a la dimension d'acrobatie. C'est très impressionnant. Il y en a qui sont montés en haut de la cathédrale de Clermont-Ferrand comme ça, de manière illégale. Donc oui, il y a ce côté-là. Ça, c'est le premier exploit. C'est le côté un peu sportif, si vous voulez. Donc, il ne peut pas être fait par tout le monde. Il y a un deuxième exploit qui est plus interne aux urbexeurs. C'est ceux qui arrivent à pénétrer un site qui n'a jamais été fait avant eux. Alors ça, évidemment, c'est un peu le must parce que du coup, ça vous donne une image assez forte dans le milieu et c'est un deuxième exploit. Mais ça, c'est évidemment deux aspects. Mais je dirais qu'il ne faut aussi pas se polariser sur l'aspect purement sportif ou un petit peu aventurier parce que parfois, l'exploit, c'est aussi de retrouver des lieux qui ont été abandonnés et qui sont chargés d'histoire et qui du coup peuvent être tout à fait intéressants sans que vous ayez besoin de faire l'acrobate.
Est-ce qu'il y a des guides avec des adresses où l'on vous indique par où passer pour entrer ?
Alors, question qui appelle plusieurs réponses. D'abord, la première règle, normalement, quand vous êtes un bon urbexeur, si vous appartenez un peu au milieu, que vous êtes attentif à rester crédible, notamment sur Internet, la règle fondamentale, c'est qu'on ne diffuse jamais une adresse d'un lieu qu'on a visité. Même quand on met beaucoup de photos, il faut faire attention pour ne pas donner des points de repère. C'est l'idée de dire que si vous commencez à diffuser les lieux dans lesquels vous êtes allé, alors ils vont être fréquentés par de plus en plus de monde, ils vont s'abîmer, ils vont être connus tous, et c'est plus de l'urbex, ça va devenir en quelque sorte une forme d'autoroute de visite. Donc, règle fondamentale, on ne diffuse pas sur Internet, on ne donne qu'à des gens très précis les adresses. Alors, ce qui arrive par contre maintenant, c'est assez, ça prouve la mode et le succès de l'urbex, hein, de l'exploration urbaine, c'est qu'il y a des gens qui s'auto-définissent comme guides et qui, moyennant finance, peuvent vous emmener sur un certain nombre de lieux abandonnés. Maintenant, il y a tout un ensemble de villes qui proposent des urbex tours plus ou moins légaux.
En lisant votre livre, Nicolas Hoffenstadt, j'avais l'impression qu'il y avait un petit rapport avec le piratage informatique, au fond.
Oui, tout à fait. Il y a un rapport... D'ailleurs, vous savez, l'expression de hacker, donc ceux qui rentrent dans les systèmes informatiques de manière illégale pour des raisons variables, c'est un terme qu'on retrouve sous la plume de certains urbexeurs, cette idée d'une certaine à la fois d'une noblesse de l'art, puisqu'on ne fait pas ça pour voler, on ne fait pas ça pour casser, on fait ça parfois simplement pour valoriser le lieu, pour montrer qu'il est intéressant. Donc il y a un peu la même chose que chez les hackers, c'est-à-dire l'idée on va pirater un site parfois pour des raisons qu'on juge moralement justifiées, donner des informations ou casser un site qu'on considère comme malfaisant. Donc il y a des parallèles absolument. Le parallèle évident étant évidemment, et d'ailleurs ce que je trouve sincèrement un des aspects les plus amusants dans l'urbex, c'est trouver la manière de rentrer. Hein, on sait qu'évidemment pour casser un système, une fois que vous êtes dedans, c'est assez facile, mais il faut pouvoir rentrer. Ben, le lieu abandonné, c'est ça. Une fois que vous êtes dedans, généralement, il n'y a pas beaucoup de risque de se faire pincer. Ça peut arriver quand même, mais ce qui est le plus dur souvent, c'est de rentrer. Donc là, il y a aussi un deuxième parallèle avec les hackers.
Oui, il y a de la beauté dans le fait de pénétrer un système, même si on ne touche à rien, même si on ne pirate rien, même si on ne vole rien et qu'on ne détruit rien, il y a de la beauté là-dedans.
Oui, oui, vous avez raison. C'est d'ailleurs, les urbexeurs revendiquent très souvent, en tous les cas ceux qui disons, ont pignon sur rue ou qui partagent avec la communauté un certain nombre de leurs expériences. Tout le monde insiste sur l'idée qu'il ne faut pas dégrader les sites. On peut photographier tant qu'on veut. Il y a même une photographe, et c'est un peu amusant quand on voit l'état de déréliction de nombreux sites, qui dit que quand elle déplace un meuble ou qu'elle déplace un objet pour prendre une photo parce que l'angle l'arrange plus, elle va remettre le meuble ou l'objet après. Ce qui peut faire sourire parce qu'il faut imaginer le caractère complètement déglingué de ces lieux. Vous avez tout, vous avez des poubelles, vous avez des chariots de supermarché, vous avez des meubles anciens. C'est parfois extraordinairement en désordre et pourtant les gens font attention finalement, même dans ce désordre, à respecter un certain nombre de choses.
Alors qu'est-ce qui les anime à votre avis, les urbexeurs? On l'a dit, c'est peut-être l'équivalent du piratage informatique ou du parc d'attractions, mais sans la queue devant les manèges, ou du tourisme, ou de la nostalgie. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est purement esthétique?
Il y a un peu tout ça, je vous dirais. Alors moi, j'ai essayé dans le livre, hein, donc Urbex, de faire un peu un panorama de tout ce qui peut animer. Bon, il y a un premier élément dont on a parlé à l'instant, c'est le côté sportif et acrobatique, hein. D'ailleurs, se développe même, je ne sais pas si vous avez vu ça, en ville, maintenant, il y a ce qu'on appelle le parcours avec un K. Ça ressemble à l'urbex, c'est des gens qui se promènent sur le mobilier urbain ou dans la ville sous une forme sportive, en passant des ponts, des escaliers, etc., en sautant, un peu comme une réappropriation de la ville. Donc, vous voyez, un petit côté acrobatique, sportif. Dans l'urbex, ça, c'est un des éléments, le côté aventure, on peut dire.
Oui, il faut une bonne condition physique. Hein.
Oui, il faut une bonne condition physique. Hein. Moi, j'ai fait quelques conseils à la fin du livre pour ceux qui veulent faire de l'urbex. Je dis que voilà, ça ne se fait pas n'importe comment. On ne se décide pas voilà, une heure avant d'aller faire de l'urbex si on n'est pas en forme. Il faut faire attention parce qu'une fois que vous êtes dans un site, vous pouvez avoir affaire à un peu d'acrobatie et puis à une fatigue certaine si vous restez longtemps. Donc oui, ça se prépare. Donc deuxième aspect quand même qui est très intéressant, peut-être le plus pour un historien que je suis, c'est le côté patrimonial. C'est-à-dire qu'on voit chez beaucoup d'urbexeurs, même quand ils ne sont pas historiens de métier, même quand ils ont un intérêt assez lointain avec l'histoire en tant que discipline, souvent ils sont très attachés au lieu, à raconter l'histoire du lieu, à voir qui a vécu là, essayer de trouver des éléments sur son passé. Donc je crois que ça correspond un peu à notre goût général pour le patrimoine. Donc l'urbex est finalement une des formes hein, de cette obsession patrimoniale de nos sociétés. L'urbex en fait partie et c'est d'ailleurs du coup il y a des urbex si vous voulez qui sont moins acrobatiques. Il y en a où il faut vraiment être un peu costaud pour rentrer ou en tous les cas accepter de faire des efforts physiques. D'autres où c'est vraiment très simple parce que les lieux sont abandonnés depuis longtemps. Donc il y a toute une variété. Et puis je dirais il y a autre chose. Vous comprendrez assez facilement. Aujourd'hui il y a toujours ce côté un peu de voilà, le monde urbain, la technologie, le monde serré et resserré par des contraintes variées, qu'elles soient policières, de contrôle, des caméras, bref. Ben les urbex, c'est un peu des lieux de liberté en pleine ville, parfois même au milieu de la ville. Et ça, c'est une motivation qu'il y a chez un certain nombre d'urbexeurs, c'est l'idée de dire, ben voilà, moi je veux un lieu de silence, un lieu où je peux aller où je veux, où je peux me balader comme je l'entends, sans être forcément surveillé. Et beaucoup de ces lieux abandonnés sont au fait finalement des lieux d'une certaine liberté dans des espaces urbains qui sont... finalement très cadenassé.
Merci Nicolas Offenstadt. Je rappelle le titre de votre livre, Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée. Ça vient de paraître chez Albin Michel.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine est terminé. On se retrouve demain à 9h. Dans un instant, ce sera Pierre de Villeneuve et les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Pierre, quel est votre programme ?
Bonjour Frédéric, aujourd'hui nous allons parler de ce remaniement interminable, même si le président Macron nous a habitués à prendre son temps toujours. Aucune nouvelle du côté de Matignon pour un éventuel successeur à Jean Castex, ainsi que pour le reste de l'équipe. On parlera aussi de la gauche qui n'arrive pas à s'entendre avec des tractations qui pour l'heure sont suspendues, du flop entre Marine Le Pen et Éric Zemmour pour une éventuelle coalition, et puis bien sûr de la guerre en Ukraine qui continue.
Merci, bonne émission.
Merci.